toujours dans la Very Good Mobile, ici en direct du Climax Festival 2024, en direct donc de Darwin, où nous avons déjà pu discuter avec Cyril Dion, avec Philippe Barre, et maintenant c'est Maxime de Rostolan qui pénètre dans la Very Good Mobile. Bonjour Maxime et bienvenue.
Bonjour, merci.
Encore un qui a une voix de radio, ça commence à m'énerver profondément. Cher Maxime, alors je vais être honnête avec les auditrices et les auditeurs, on va faire un peu connaissance, parce que j'avoue, je ne vous connaissais pas vraiment, je suis un égoïste qui vit sur le bassin et qui donc ne me préoccupe pas beaucoup du sort du monde extérieur, et c'est ma grande faute et je viens pour apprendre. Donc qui êtes-vous, cher Maxime, et que faites-vous exactement?
Ah ben, je suis un entrepreneur depuis une vingtaine d'années dans l'écologie. J'ai été formé comme ingénieur et à l'issue de mes études, j'ai décidé de faire un tour du monde de 2 ans.
Oui.
C'est à la rencontre des problématiques de l'eau.
Alors un tour du monde en vélo, à pied, à la voile
En camion, en puis camion. À la voile, ouais, je suis rentré à la voile. Camion, on est parti vers l'Est. D'accord. Et on est revenu de l'Ouest à la voile.
Et ce qui prouverait que la Terre est donc ronde.
Elle l'est, je confirme. Et donc du coup, on a traversé 40 pays et dans chacun, on allait voir un petit peu les enjeux locaux de l'eau. Et donc on a écrit un bouquin à l'époque. Et voilà, en rentrant de ce voyage qui m'a quand même bien ouvert les chakras, j'ai décidé de bosser dans l'éducation et la sensibilisation aux enjeux sociétaux. Et donc j'ai pris la direction d'une collection pédagogique, enfin d'une maison d'édition qui faisait des affiches pédagogiques. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Dérol, la maison d'édition qui faisait des cartes de France, les corps humains, etc. Et donc j'ai remis au goût du jour ce type de pédagogie par l'image, mais sur des enjeux actuels comme le cycle de l'eau, les animaux, les espèces en voie de disparition, la rénovation thermique des bâtiments ou que sais-je. Ce qui m'a permis de rencontrer pas mal de monde et de réaliser à quel point déjà l'éducation était importante, mais à quel point c'était également en un sens limité. Parce qu'en fait on plante une graine dans un terreau dont on ne sait pas vraiment de quoi il a été ensemencé par ailleurs, on ne sait pas qui va l'arroser, on ne voit pas la plante pousser. Donc voilà, ça a duré 7 ans, en parallèle de quoi, comme je suis un peu hyperactif et que le patron de l'époque, mon patron de l'époque qui s'appelle Louis-Albert de Breuil,
d'accord,
qui est connu pour être le prince jardinier.
Ce qui s'écrit de Broglie pour tous ceux qui ne le savent pas.
C'est le Piémont. C'est la famille piémontaise. Et donc Louis-Albert m'a permis de faire plein de trucs à côté, et notamment j'ai monté une plateforme de financement participatif pour financer l'agroécologie.
C'est ça.
Première plateforme qui a pu faire du prêt rémunéré. Donc en fait on a
Blue Bees, les abeilles bleues.
Ouais, on a mis 5 ans à monter cette plateforme parce qu'en fait on a dû casser le monopole bancaire. Évidemment, les banques avaient un prêt carré qui était on veut être les seuls à pouvoir faire du crédit.
Bien sûr.
En fait, moi je disais ça n'a pas de sens. Il faut que les gens puissent prêter s'ils le souhaitent sur ce type d'outil.
Dans des domaines où les banques ne prêtent jamais en plus.
C'est vrai, les banques conventionnelles aiment bien financer l'agriculture conventionnelle.
Intensive.
Ouais, mais donc du coup on a mis 5 ans, on a épuisé 4 avocats et finalement en 2012 on a réussi à lancer ça.
Cool.
Entre temps, donc la plateforme existe toujours, je pense qu'on a dû financer 15 millions de projets, enfin 15 millions d'euros et voilà. Et entre temps j'ai découvert le biomimétisme, le fait de s'inspirer de la nature, donc j'ai créé Biomimicry en 2010, une association qui allait jouer les poils à gratter.
C'est bien les poils à Greta aussi, elle s'épile plus depuis 6 mois il paraît.
Les poils à Greta auprès des grosses boîtes. Et donc on allait expliquer aux entreprises qu'elles pouvaient changer leur process, et on allait voir des boîtes comme Bouygues, comme Clarins, etc., en leur disant écoutez, inspirez-vous de la nature, elle a bien plus d'expérience que nous.
Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté justement, alors ça fait penser aussi aux démarques qui pouvaient être critiques qui pouvaient être faites à Maud Fontenoy, qui justement moi je trouve ça malin quelque part d'aller utiliser le greenwashing pour aller finalement servir une bonne cause.
Oui, alors après, il faut savoir à quel point on se vend, quoi.
Oui, mais si c'est pour une bonne cause.
Non. Moi, il y a des boîtes avec lesquelles j'ai refusé de bosser, et il y a des conditions auxquelles je suis prêt à bosser. Je suis pas sûr que Maud ait la même approche.
Elle a été remise en cause sur justement un profit personnel quelque part. Là-dedans.
Voilà, moi, je
c'est pas bien sûr votre cas.
Mon compte en banque a jamais vraiment explosé.
On en est d'accord. Mais c'est pour dire quand même quelque part que donc vous feriez aujourd'hui, ça c'est intéressant. Le grand public n'en a pas conscience parce qu'on est tous manichéens. C'est bien ou c'est mal. Il y a des grandes entreprises, des gros groupes qui sont vertueux ?
Vertueux, je ne sais pas, parce qu'en fait, vertueux, ça voudrait dire que leur activité régénère les écosystèmes et rend grâce aux vivants. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'activités industrielles qui aujourd'hui sachent le faire. En revanche, il y a des entreprises qui sont conscientes de ça et qui ont envie vraiment de faire évoluer leur business model. Je pense par exemple à Mustela qui récemment, la directrice a annoncé qu'ils allaient arrêter de produire les lingettes bébés. Et en fait, c'est, je ne sais plus si c'est pas un tiers ou presque la moitié de leur chiffre d'affaires.
Ah oui. oui. Donc là, c'est significatif.
Et là, elle se coupe vraiment d'une manne. Elle a dit, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, au moins, on fera pas de mal. Donc, il y a des entreprises qui sont dans cette mouvance-là. Après, moi, j'ai refusé beaucoup, très souvent, de bosser avec certaines entreprises, parce que je savais qu'elles achetaient juste une image ou un...
Ok. Au niveau des hommes politiques, maintenant, vous avez remis, au début de son pouvoir, de son règne, à Emmanuel Macron, par exemple, un plaidoyer en faveur donc, de la nature. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il vous écoute ou est-ce que c'est juste pour la photo?
Alors, il est venu visiter, alors parce que, donc, après le biomimétisme, j'ai découvert la permaculture. Donc, du coup, en 2011-12, je suis allé me former à la ferme du Bec-et-Loing. Et j'ai fait un BPREA, donc brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole.
Ah oui.
Et je suis devenu maraîcher pendant 5 ans, mais en vrai pendant 3 ans, parce que les années suivantes, j'ai plutôt fait du lobbying. Et effectivement, le candidat à l'époque, Emmanuel Macron, est venu sur ma ferme. Et entre-temps, grâce à une fondation, j'avais pu faire financer un plaidoyer de 150 pages qui explique les externalités des agricultures et qui démontre par A plus B que l'agriculture industrielle est un choix qui n'a aucun sens, puisqu'il détruit la santé, la qualité de l'eau, climat, la biodiversité, et qu'en plus, il crée aucun emploi parce qu'il en a détruit 80%.
Très bien.
Donc du coup... Non, pas très bien, mais en tout cas, ce plaidoyer avait pour vocation de dire aux élus et en premier lieu à Jupiter que, enfin, Jupiter en devenir, ouais. Qu'il fallait remettre les choses à plat. Et donc, on lui a proposé de faire des états généraux de l'alimentation, ce qu'il a fait, mais ce qui n'a pas été suivi réellement des faits, puisque. C'est comme la Convention citoyenne pour le climat, il a dit on va faire des choses, mais en fait ça a accouché pas d'une souris. Ouais. Donc j'ai participé à ça et j'ai aussi, à sa demande, essayé de faire le lien entre Nicolas Hulot, enfin entre le ministère de l'écologie et le ministère de l'agriculture. Et donc j'ai organisé des dîners entre les cabinets, entre les membres du cabinet, etc. pendant plusieurs mois pour essayer de faire en sorte qu'ils se parlent et qu'ils trouvent des terrains d'entente, des lignes de crête.
Parce que pour les auditeurs là, qui ne sont peut-être pas des lecteurs quotidiens de la politique, le ministère de l'Agriculture, traditionnellement en France, il est FNSEA, quoi.
Tout à fait, oui, ouais, c'est vraiment, c'est le défenseur de l'agriculture industrielle, mais c'est ceux qui ont de l'argent. En fait, c'est toujours le même sujet, c'est ceux qui ont du poids et ceux qui peuvent faire influencer les choses, c'est ceux qui ont de l'argent. Donc, en gros, c'est ceux qui investissent beaucoup, c'est ceux qui ont des grosses machines, etc. Donc voilà, donc ça a été une partie jusqu'à... Et donc, il se trouve que j'ai réussi à pousser 4 amendements dans les états généraux de l'alimentation, dont un qui est passé. Un qui concernait la rémunération des services écosystémiques rendus par les agriculteurs. Je le fais court, mais en gros, si un agriculteur arrête d'utiliser du glyphosate, par exemple, il va économiser des dépenses de santé publique et on va lui donner en avance une partie de ses économies pour qu'il puisse justement arrêter le glyphosate, pour compenser.
Je comprends.
Et donc du coup, et pareil, ça se fait sur l'eau, hein, un agriculteur qui va être en bio va préserver la ressource, voire même produire de l'eau potable, et on peut le rémunérer pour ça. C'est d'ailleurs ce que les agences de l'eau font en ce moment, puisqu'elles récupèrent de l'argent à Bruxelles pour ça.
Alors excusez-moi, je vais vous poser une question d'enfant de 4 ans, mais en même temps, c'est comme ça qu'on comprend les choses. Nous, grand public, on se demande pourquoi, alors que sont démontrés quotidiennement que l'alimentation transformée n'est pas bonne pour la santé, que tout un tas, si vous voulez, de tels produits ou de politiques ou de comportements alimentaires sont néfastes pour la santé, tout un tas de produits sont néfastes pour la santé, etc., etc. Comment, alors ça c'est le bon lobbying que vous faites, mais comment le mauvais lobbying, entre guillemets, peut continuer malgré toutes ces évidences à faire que ce monde est encore un monde dans lequel le profit l'emporte sur le bien-être des populations?
Ouais, parce que c'est l'argent qui... Enfin, la clé d'arbitrage, c'est l'argent. C'est, ils disent, nous on crée de la valeur, on crée de la richesse. Alors c'est de la richesse qui s'accompagne de plein de dégâts annexes que sont la santé, les algues vertes, le mal-être des agriculteurs, etc. Mais en fait, comme ça, c'est pas comptabilisé. Le problème, c'est que le monde va mal et le monde est dans cette position parce qu'on compte mal. On compte mal parce qu'on compte que le capital financier. En fait, il faudrait rajouter au bilan comptable des entreprises ou dans le compte de résultats le capital naturel et le capital humain et indexer les impôts et les critères de réussite sur cette comptabilité en triple capital. Mmh. Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. On est toujours sur la seule boussole, c'est le PIB. Et en gros, même
produit intérieur brut.
Voilà, avec une boussole comme celle-ci, une marée noire, hein, il faut nettoyer la plage, il faut démanteler le bateau, il faut reconstruire un bateau, il faut le réaffréter, il faut le remplir, ça fait de la croissance économique, et donc du coup, une marée noire, c'est bien. Donc en fait, voilà le sujet.
C'est incroyable.
Et en gros, à un moment ou l'autre, il va falloir remettre les choses, le remettre l'église au milieu du village, qu'est-ce qu'on veut et de quoi a-t-on besoin ? On a besoin d'air respirable, d'eau potable, on a besoin de biodiversité pour pouvoir maintenir la résilience et la fertilité naturelle des sols. Aujourd'hui, on fait le contraire.
Parler très clairement. Alors, justement, aujourd'hui, le thème de...
Juste un truc, c'est que du coup, l'amendement que j'ai passé, il se trouve qu'il a été censuré par le Conseil constitutionnel.
Mais non.
Bien sûr, parce que Stéphane Travert, qui était ministre à l'époque, ministre de l'Agriculture, est passé par ce qu'on appelle la porte étroite. Et donc, du coup, passer par la porte étroite, ça veut dire aller au Conseil constit et aller s'immiscer dans les... Enfin, déjà, c'est saisir le Conseil constit et expliquer aux neuf sages, qui n'ont pas grand-chose de sages, finalement, mais et qui, d'ailleurs, ne sont pas élus. Ils sont nommés par l'exécutif, enfin par le président de l'Assemblée aussi. Et donc du coup, ils ont censuré ça, et ce qui fait que moi, j'ai jeté un peu l'éponge à ce moment-là. Donc c'était Ferme d'Avenir, j'avais monté l'association Ferme d'Avenir. Et donc j'ai décidé de quitter Ferme d'Avenir en disant, écoutez, en fait, on a prouvé qu'on pouvait produire différemment, qu'il y a des gens qui voulaient se former, qu'on savait financer ça grâce notamment à Bluebees ou à des alternatives aux banques. On a montré que c'était bénéfique pour la santé, pour tout ça. Et on a réussi à faire... proposer une loi qui permettrait de résoudre la distorsion de concurrence entre l'agriculture industrielle qui ne prend pas à sa charge les dégâts qu'elle elle est financée par la PAC, elle est financée par plein d'aides indirectes. Donc cette distorsion de concurrence, elle est horrible, je reviens en deux secondes, parce que l'agriculture industrielle, elle est financée directement par la PAC. Et elle est financée indirectement parce qu'elle n'est pas tenue pour comptable des externalités négatives, donc des dégâts qu'elle provoque, alors que l'agroécologie prend à sa charge le surcoût des bonnes pratiques qu'elle doit faire. Planter un arbre, ça prend du temps. Donc du coup, il y a une vraie distorsion de concurrence. Et ce qu'on proposait avec cet amendement, c'était justement de résoudre cette distorsion.
Oui, de créer une communication entre le vice et la vertu, finalement.
Ouais. Et donc du coup, on a montré tout ça, et malgré ça, ça ne fonctionne pas. Et c'est là que j'ai dit, en fait, le problème, il n'est ni technique, ni culturel, ni politique, en fait il est presque institutionnel. Ouais. Donc j'ai jeté l'éponge et j'ai décidé de créer la bascule pour embarquer des jeunes qui sont dans des écoles et dans des voies tracées, qui semblent toutes tracées en tout cas, qui nous emmènent toutes dans le même chemin. Et donc du coup je leur ai proposé de venir et de préparer la révolution. Donc ça, c'était en 2019, et on a pris un hôpital désaffecté dont on nous a confié les clés à Pontivy, et ils sont 150 à s'être installés là-bas.
Ouais.
Et on a monté le mouvement La Bascule, qui aujourd'hui existe toujours. On s'est fait offrir un couvent en Bretagne, on s'est fait offrir une caserne en Bourgogne. Et donc aujourd'hui, il doit y avoir 150 jeunes qui habitent encore dans les différents lieux de bascule et qui continuent à bosser avec le territoire. Moi, j'avais dit, je donne un an de mon temps à ça. Et donc, c'était en gouvernance partagée. Il n'y avait pas une tête qui dépassait. Moi, j'ai juste amorcé la chose, et puis j'ai regardé comment ça fonctionnait. On a d'ailleurs essayé d'organiser le festival L'An Zéro pendant cette période, avec un gros festival où on attendait pas mal de monde. Et là, je me suis pris l'autre côté de la résistance, c'est-à-dire j'étais pris d'un côté entre la FNSEA et de l'autre côté entre l'ultra-gauche Julien Coupa et ses potes, puisqu'on voulait faire le festival dans la Creuse, sur le plateau de Mille Vaches. Et là, ça a été compliqué. Je me suis fait accuser justement de greenwashing, d'être un instrument déguisé de la Macronie, etc. Donc ça a été assez compliqué. J'ai été aidé par les RG pendant deux mois pour m'en sortir. J'avais peur de me prendre un camion tous les jours.
Après, Maxime a un gabarit qui devrait quand même lui permettre de faire face au premier danger.
Face à un camion, je sais pas. Mais du coup, ça a été un peu compliqué. Toujours est-il que l'an 0 n'a pas eu lieu. Et c'était une référence à l'an 1 pour vos auditeurs.
Bien sûr,
l'an 1 dont le sous-titre est génial, qui dit on s'arrête, on réfléchit et c'est pas triste. Bref, et donc du coup, au bout d'un an, j'ai arrêté la bascule et est arrivé le confinement. Et là, j'ai lancé deux nouveaux projets. Sur lesquels je suis toujours. Le premier, c'est de... En gros, après m'être fait prendre cornaquer entre deux camps qui ne peuvent pas se parler, j'ai essayé de trouver des sujets consensuels, et j'en ai trouvé. J'en ai trouvé deux. Le premier, c'est l'arbre. L'arbre est un totem de réconciliation, et d'autant plus il est planté intelligemment, c'est-à-dire pas forcément sur des champs dégommés par des coupes rases, mais plutôt dans et autour des parcelles agricoles. Et en gros, c'est l'agroforesterie. Donc j'ai décidé de lancer des pépinières dédiées à l'agroforesterie, parce qu'en fait, comme il faut faire x10, je parle vite,
Non, c'est parfait.
Comme il faut faire x10.
Vous parlez clairement.
Comme il faut faire x10 sur le rythme de plantation de haies. En gros, il y a plein de goulots d'étranglement. Il faut trouver des agriculteurs qui veulent bien accueillir des arbres. Il faut trouver des bras pour planter des arbres. Il faut trouver des experts pour nous dire quels arbres planter. Il faut trouver des sous pour financer ça. Mais il faut aussi des plans. Et donc là, j'ai décidé de prendre le problème en amont, parce que si jamais on doit faire x10 et qu'on ne se dote pas de filière de production de plants, on va aller chercher les arbres en Allemagne, en Pologne, en Hollande, ce qui est une hérésie. Et donc du coup, j'ai proposé ça à l'époque au président. et au ministre de l'Agriculture, hein, par lettre pendant le confinement. Et ils m'ont dit, mais c'est très bien tout ça, mais bon, on va pas financer. Je fais, mais pourtant, c'est régalien, c'est à vous de créer les conditions favorables à notre propre survie. C'est votre mission. Et donc, non. Et au bout d'un an, je les ai finis par les attaquer en justice avec, avec deux avocats, dont William Bourdon, qui est un ami de Darwin.
Qu'on aura tout à l'heure, oui.
Et donc du coup on a attaqué, on a mis en demeure Castex Pompili de Normandie et on a tordu le bras, et ce qui fait que Macron m'a re-reçu et a dit ok, je finance les 5 premières, et donc du coup on a lancé les premières. Évidemment c'est pas aussi simple que ça, hein, c'est pas parce que Jupiter dit que ça se fait, derrière il faut encore des années. Donc on a créé 3 premières pépinières, une pas très loin d'ici à La Pouillade dans un lieu qui s'appelle La Possiblerie, au-dessus de Libourne, une autre dans l'Oise et une autre en Bourgogne. Et donc on a 3 pépinières qui sortent chacune 30 000 plants par an. Et on va continuer, on va aller jusqu'aux 5 premières. Et comme ça a pris du temps, il a fallu attaquer l'État en justice, etc. La veille de mes 40 ans, j'ai publié sur les réseaux des idées de projets sur lesquels j'avais pu bosser ou rêver et qui n'avaient pas vu le jour. Et il y en a un qui a fait mouche.
Oui, parce que c'était le premièrement, c'était l'arbre. Mais là, on arrive au deuxième.
Deuxième projet. C'est, en fait, moi, je prends plus l'avion depuis 10 ans. Et, et il se trouve que j'aime bien la voile. Je suis pas un skipper, je suis pas un vrai voileux, mais j'aime beaucoup la mer et la voile. Et je vois dans les ports français, et sans doute ailleurs aussi, mais en tout cas dans les ports de France, je vois que les bateaux restent généralement 360 jours par an à quai. Et je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas récupérer ces bateaux pendant que leurs propriétaires ne s'en servent pas pour pouvoir emmener des gens à la voile en Corse, aux États-Unis ou que sais-je. Ouais. Et en fait, l'idée a vraiment buzzé sur les réseaux, ce qui fait que très vite, j'ai fait un petit questionnaire, un formulaire pour essayer de prendre la vraie température du truc. Et j'ai eu 2000 réponses, et parmi ces 2000 personnes qui m'ont répondu, j'ai trouvé 11 profils pépites, quoi. Et je leur ai dit, allez, on se retrouve en Bretagne et on va en discuter. Et en novembre 2021, on a décidé de lancer la coopérative SailCop. Et on a ouvert dès 2022 la première ligne de la première liaison régulière à la voile entre le continent et la Corse. Alors on s'est fait retoquer par la police. Hein, au premier retour au port, il y a la police qui nous attendait, qui a déchiré notre permis de navigation.
Sympa.
Et donc du coup, on a mis l'État en demeure. Puis on a fait une...
Ils doivent bien vous aimer là-bas.
Ouais, ils m'aiment bien. Mmh. Et donc du coup, on a ensuite fait un référé suspensif auprès du juge des libertés pour entrave à la liberté d'entreprendre. Et on a gagné, ce qui fait qu'on a eu le droit d'ouvrir l'année suivante vraiment la ligne. Donc la première année, on a transporté 120 personnes. La seconde, on a transporté 1000 personnes. Et là, on frôle les 2000 cette année. C'est notre troisième saison.
Magnifique.
Et entre-temps, on s'est dit, bon bah, SailCop, c'est... La promesse, c'est, ou en tout cas le défi, c'est d'offrir partout où c'est possible une alternative décarbonée au transport marin, transport de passagers maritime, au transport maritime de passagers. Et en fait, on s'est dit, il y a trois bassins, il y a trois types de liaisons. Il y a les liaisons moyenne distance, comme la Corse. Il y a les courtes distances, et là, on parle d'îles côtières, hein, comme Belle-Île, comme Groix. Pour le coup, il faut développer des bateaux qui soient très véliques, qui soit léger et qui soit sécurisant, etc.
Bien sûr.
Alors vélique, ça veut dire qui fonctionne bien au vent. Ça veut pas dire qu'ils vont très, qu'ils naviguent rapidement. C'est-à-dire que très vite, ils sont au vent. C'est-à-dire qu'avec très peu de vent.
Force 2, ça marche.
Ouais, un peu plus. Mais oui, enfin, si force 2, oui. Après, c'est à partir de 6 nœuds. Donc du coup, ça doit être ça. Mais donc, on a décidé de lancer la construction et la conception d'un catamaran pour 80 passagers. On a confié ce défi à des architectes navals qui adorent la vitesse, qui sont le cabinet VPLP. Et VPLP, c'est eux qui dessinent les ultimes, les IMOCA, etc. Et donc, quand on est arrivé et qu'on leur a dit, bah, écoutez, on veut faire un bateau aussi beau, aussi rapide que les vôtres et aussi vélique que les vôtres, mais on veut mettre 80 passagers, ils ont adoré le défi. Et ils ont réussi à sortir un bateau de moins de 17 tonnes qui transporte 80 passagers.
Joli.
Là où, normalement, c'est des bateaux de 25 tonnes qui transportent 55. Donc, on est une fois et demie plus léger, on transporte une fois et demie plus de gens. On a levé 1,6 million pour ça grâce à des sociétaires, puisque SailCop est une coopérative. On a eu un investisseur privé qui a mis 500 000 euros et les banques qui ont suivi. On a ouvert Concarneau-Les-Glénans. Donc le bateau est sorti en juin dernier du chantier de l'Arsenal à La Rochelle.
Oui.
Et on a ouvert Concarneau-Les-Glénans le 20 juillet. Et depuis le 20 juillet, on a emmené 8000 personnes.
Magnifique.
Donc on est
Glénans, c'est beau,
en très content. Et, en plus, ça fait du sens d'aller au Glénans à la voile. Hein, pour ceux qui le savent, il y a
la
une
plus
école,
grande école de voile
presque au monde. Hein. Et donc là, on va lancer la construction du deuxième bateau, puisqu'on va ouvrir de nouvelles lignes. Et voilà, donc c'est un peu. Voilà, et ça, c'est mes deux projets actuels, c'est Planteur sur l'agroforesterie et Selcop. Et puis en parallèle, j'ai une passion que je ne sais, que je ne saurais cacher pour les festivals, pour la musique, etc. Mm-hmm. Et donc il se trouve que j'aide Darwin depuis 5-6 ans maintenant sur la programmation de Climax. J'aide Wheel of Green, le So Good Festival, et puis accessoirement, je fais aussi des festivals chez moi.
J'ai bien fait de poser la question, que faites-vous ? Parce que là, au moins, on est au courant, et celui ou celle qui ne saura plus nous expliquer un petit peu l'activité de notre invité, eh bien, sera puni. Alors, venons-en maintenant à l'actualité prégnante du moment. La thématique de ce festival, du Climax, donc numéro 10, c'est le climat et la paix. Forcément, dans ce que vous nous avez raconté tout à l'heure, la ressource de nourriture, le fait de pouvoir développer telle ou telle façon de se nourrir, ça crée des conflits. Ça, dans l'histoire, généré des guerres. Aujourd'hui encore, on l'a dit avec Philippe Barre tout à l'heure, on meurt de faim parfois au Pérou parce qu'il y a un conflit qui se trouve ailleurs. Voilà, donc cette espèce de monopole géant, on fait quoi ?
Bah, je sais pas.
Non, mais oui.
Je sais pas exactement ce qu'on peut faire. En revanche, ce qui est sûr, c'est que la paix est un préalable et un prérequis, je pense, pour pouvoir dessiner un monde désirable, quoi, sans être dans des en situation de conflit. On a de la chance, nous, on n'a pas connu de guerre, hein, on les voit, elles se rapprochent, et donc là on commence à se dire que finalement c'est pas si définitif que ça, cet état de fait dans lequel on vit. Mais en temps de conflit, toutes les priorités sont rebattues, et en fait les priorités viennent même à se renfermer sur soi, à prendre soin de sa famille, etc., ce qui est très important, mais ça empêche de voir large et de voir collectif. Et je pense qu'il y a un enjeu, c'est aujourd'hui de construire un monde qui soit collectivement vivable. Et si jamais il y a des bombes qui tombent tous les, c'est pas très facile d'y réfléchir. Donc pour moi c'est un prérequis. Après le sujet, c'est que c'est aussi le serpent qui se mord la queue, c'est que souvent les guerres, elles sont déclenchées. Les premières guerres, c'est pour l'eau, hein, les guerres de l'eau. C'est les guerres de l'eau, c'est pour pouvoir irriguer des champs, pour pouvoir se nourrir. Et en fait, il y a un enjeu de répartition de tout ça et puis de rationalisation. Si jamais on savait cultiver et s'inspirer de la nature pour pouvoir se nourrir, et puis le biomimétisme nous le montre, la permaculture en est un exemple, on pourrait diminuer la pression sur cette ressource et autour de cette ressource.
Parce qu'aujourd'hui, en tout cas sur ce que j'en lis dans les ouvrages de vulgarisation, où tous ceux qui sont pour l'agriculture industrielle justement disent oui, mais alors on est 8 milliards, bien sûr qu'il faut de l'OGM parce que sinon on va y avoir des petits insectes qui vont flinguer mes cultures, et donc si on veut nourrir tout le monde, il faut faire les protéger comme ça, bien sûr qu'il faut transformer la nourriture pour qu'elle se conserve, etc., etc. Donc si vous voulez, il y a, j'ai envie de dire, toute une justification démographique de nourrir des quantités de personnes qui s'opposent finalement.
Mais c'est totalement, enfin alors là c'est un discours qui a quand même été vachement instillé par les industriels qui nous font croire qu'il n'y a pas d'alternative.
Voilà.
En réalité, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que il y a un truc dans les habitudes alimentaires. 63% des terres en France, elles sont cultivées pour pouvoir produire de la viande. Hein. Donc, il faut 10 fois plus de surface pour produire une protéine d'origine animale qu'une protéine végétale. D'accord. 43% de l'eau potable en France, c'est pour produire de la viande. Donc, le jour où on arrête de bouffer de la viande, globalement, on libère 60% des terres agricoles. Et c'est pareil partout dans le monde. Et on sauve la moitié de l'eau potable. Ouais, ouais. Donc du coup, ça c'est une première chose. Ensuite, sur la fable qui fait croire qu'en fait il faudrait des OGM, il faudrait trafiquer le vivant, en fait c'est une vision très court-termiste. Et effectivement, on peut avoir, c'est la même chose qu'avec les engrais, hein. On peut doper pendant quelques temps, mais en fait le truc c'est que la nature se rappelle à nous, et la nature est bien bien plus résiliente que nous. Nous, si jamais on détruit les terres, en fait on pourra juste plus nous notre civilisation va disparaître, et puis après les terres reviendront ce qu'elles voudront. Juste un truc pour vos auditeurs, j'adore cette image, mais en fait ça permet juste de prendre de la hauteur et peut-être qu'on voit les choses un peu différemment une fois qu'on a ça. Aujourd'hui on se nourrit grâce au pétrole. En fait, il faut 7 à 10 calories fossiles pour produire une seule calorie alimentaire. Ouais. Alors qu'à l'époque de nos grands-parents, il fallait, avec une calorie fossile, on produisait 2 calories alimentaires. Donc, okay. On a divisé par 15-20...
Et inversé le rapport.
On a divisé par 15-20 notre efficacité énergétique pour produire de la bouffe depuis l'époque de nos grands-parents. Je ne vais pas rentrer dans le pourquoi, mais si jamais vous voulez, j'ai plein de... Je peux, si vous voulez tirer le fil, je voudrais bien tout à l'heure.
D'accord.
Mais en tout cas, pour revenir à un truc, c'est que notre société, elle dépend absolument du pétrole. Le jour où le baril de pétrole vaut $300, on ne sait plus se nourrir. Et en fait, elle dépend du pétrole comme tout le reste. C'est-à-dire qu'on ne sait aujourd'hui se nourrir, se déplacer, communiquer, se soigner, se divertir que grâce au pétrole. Or, le pétrole, c'est quelque chose qui est apparu au 19e siècle et qui finira au 22, 23, oui, 24. Donc c'est une gaussienne, c'est une courbe de Gauss, en gros, vous voyez à quoi ressemble une courbe de Gauss.
C'est une théorie que je regarde toujours des choses de vulgarisation qu'à Jean-Marc Jancovici.
Mais, tout à fait, mais en fait, c'est pas une théorie, c'est un fait. Hein. On dépend du pétrole, et sans pétrole, aujourd'hui, on ne sait plus rien faire. Donc notre société est assise sur le pétrole. Mais en fait, moi, depuis que je suis écolo, depuis que j'ai 15 ans, tout le monde, quand j'avais 15 ans plutôt, la question qui était sur toutes les lèvres, c'était est-ce qu'on a passé ou non le pic ? Et moi, je comprenais pas. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que cet angle de vue ? Parce qu'en fait, c'est très restrictif. Parce qu'en fait, encore une fois, cette courbe du pétrole, elle commence au 19e, mais elle finira au 23e, au 22 ou 23. Parce qu'ils ont trouvé le fracking maintenant, donc ils vont
faire ça. Ils vont nous péter l'Antarctique avant.
Mais bon. Tout ça pour dire que sur cette courbe-là, si on regarde la courbe de l'échelle du temps, on ne voit pas Ramsès II. Et je dis, mais dézoomons un tout petit peu pour voir à quoi ça ressemble. Et en fait, pour savoir à quoi ça ressemble, même à l'échelle géologique et à l'échelle du vivant, il faut remonter très loin. En fait, la Terre, elle a 4,5 milliards d'années.
Absolument.
C'est très dur de savoir ce que c'est un milliard. C'est très, très dur. Juste pour info, hein, 1 million de secondes, c'est 11 jours.
Oui.
1 milliard de secondes, c'est 32 ans.
Voilà, et le premier humain de tous les temps aurait 300 000 ans.
Voilà, et donc du coup, j'y arrive. Et en fait, si on fait sur cette échelle-là, donc 4,5 km, c'est l'âge de la Terre. Mmh. C'est ce qui sépare l'arc de triomphe de l'arc de la défense, en gros. D'accord ? Le vivant est apparu il y a 3,8 km. Mmh. D'accord ? 3,8 km. Mmh. Les dinosaures sont arrivés il y a 250 mètres. Mmh. Et du haut de leur intelligence, ils ont tenu 200 mètres.
Oui.
L'Homo sapiens, il est apparu il y a 20 cm. C'est-à-dire qu'on a le pied écrasé contre l'arche de la défense, il y a l'Homo sapiens qui arrive. Et pendant 19,99 cm, ça se passe bien.
Ok.
Et il y a 0,1 mm, on a découvert le pétrole.
Ok.
D'accord ?
Ouais.
Donc si on dézoome un tout petit peu, ce momentum, en fait, il aura duré 0,3 mm, c'est notre société. Et donc du coup, dans un centimètre, il n'y aura plus aucune trace de nous. Il faut qu'on sorte du paradigme du pétrole, sinon c'est mort. Et donc, en fait, la bonne nouvelle, c'est que l'agroécologie, la permaculture, permettent de produire plus de calories, plus d'énergie que ce qu'elle en dépense, alors que l'agriculture industrielle fait exactement le contraire. Mais c'est fake, en fait. On est dans une société qui est totalement dopée à cette potion magique qui en fait ne l'est pas du tout, puisque elle est magique, oui, parce qu'en fait on a l'impression de pouvoir soulever des montagnes et de pouvoir défoncer les montagnes, mais en fait le fait est qu'elle détruit et l'air et la qualité de l'eau et le vivant. Et en fait, il faut sortir très vite de ça, sinon en fait notre civilisation, pour de vrai, dans 2 cm il n'y aura plus aucune trace de notre passage sur cette terre, quelques petites particules plastiques, voilà, mais en fait il n'y aura plus rien. Et donc du coup, c'est l'enjeu. Et en fait, ceux qui disent c'est des OGM, il faut des gros tracteurs, mais en fait, ils n'ont rien compris.
D'accord. Alors en plus, ce que vous dites me parle, parce que moi, quand je vois les préoccupations de certaines générations et qu'on se compare toujours pareil à l'univers, depuis qu'on a envoyé le James Webb là-bas dans l'espace, c'est ça aussi le paradoxe de l'humain. On est capable de faire des trucs extraordinaires, d'envoyer, mais comment on arrive à faire se déployer un putain de télescope dans l'espace, 1,5 million de kilomètres sur un point Lagrange, pour regarder dans le passé du passé du passé, et en même temps de faire toute cette merde sur Terre. C'est un paradoxe incroyable. Il y a deux types d'êtres humains, le profit rend idiot.
Mais alors le profit, je ne sais pas si il rend idiot. En tout cas, il rend aveugle sur la réalité. En tout cas, il rend pas humble. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que les gens qui ont de l'argent pensent savoir tout mieux que les autres, pensent expliquer aux autres comment fonctionne le monde. Moi, je rappelle un truc, c'est que l'économie, c'est un dogme, c'est une théorie. Hein, quand Alfred Nobel est mort, sur son lit de mort, il a dit à ses enfants, il a dit, attendez, on va faire des prix Nobel, parce que voilà, on a compris, mais sur des sciences dures. La chimie, la physique,
les
sciences exactes, sur la médecine. Mais surtout, et c'est précisé, il l'a précisé, il a dit, surtout, si on vient vous voir pour faire un prix Nobel d'économie, refusez de toutes vos forces, parce qu'en fait, ils vont réussir à vous faire passer des trucs comme des vérités. Or, ce n'en sont pas. Et juste, je rappelle que le PIB, il a été inventé sur un coin de table à la fin de la Seconde Guerre, quand les Américains ont dit, on va reconstruire, donc on va injecter de l'argent, on aimerait suivre et vérifier que ça crée vraiment de la richesse. Et le mec qui a inventé le PIB, en donnant le PIB, il a dit, attendez, juste, j'ai pas eu le temps de faire mieux, prenez ça, mais ne le prenez pas trop longtemps, parce qu'en fait, il part d'une hypothèse absurde et totalement illusoire, qui est que les ressources seraient infinies. Or, elles ne le sont pas. Donc, dans quelques années, arrêtez ça. 80 ans après, on a toujours le même truc, et c'est encore ça qui dirige le monde.
Exactement. Bon, en tout cas, avec Maxime de Rostolan, je peux vous dire qu'on se remet mettre un petit peu les pendules à l'heure. Justement, si venons-en un petit peu à maintenant et à demain, après Cellcop, dont vous avez dit, vous êtes un homme apparemment de cycle. Donc vous avez déjà peut-être encore une autre idée derrière la tête.
Non, il me reste un peu de temps là avant de... Oui, alors Cellcop, on va construire des voiliers qui vont aller transatlantique. Alors,
pardon, je vous coupe, mais vous connaissez bien sûr chez nous quand même Yves Parlier.
Bah oui, bien sûr.
Voilà, donc il ne fait pas exactement ce que vous faites, mais son idée de tirer des cargos robots géants avec des voiles géantes, c'est rigolo. Enfin, c'est alors, pas rigolo, c'est intéressant.
Alors, c'est intéressant, juste, je précise que si les cargos réduisaient de 10% de leur vitesse, ils économiseraient 25% de pétrole.
Déjà.
Et les voiles, en l'occurrence, elles peuvent au maximum, au mieux, économiser 15%. Donc, c'est beaucoup d'investissements, c'est beaucoup de technologies, parce qu'en fait, les lanceurs...
D'accord, donc le plan est pas top.
Si c'est bien, mais en fait, faut d'abord faire les économies qu'on peut faire de manière sobre et instantanée.
Aller au facile, quoi.
Instantanée. En fait, ils transportent les cargos, ils transportent des trucs inertes. Ils peuvent très bien, et en plus, ils peuvent très bien réduire un peu leur vitesse, traverser un peu moins vite, et comme ça, ils n'attendront pas tous devant le port pendant des jours en attendant que ce soit leur tour.
Ouais.
Donc, il y a des manières assez directes de faire quelque chose. Et oui, c'est bien. Mais en vrai, ça fait des années, beaucoup de millions investi.
Okay.
Or, il existe des bateaux. Là, les voiliers cargo existent. Il y a des Taut, Neoline, Grand Sail, Canopée. Il y a énormément de bateaux là qui sont en train de sortir. Des bateaux qui emmènent, alors c'est 1000 tonnes de marchandises, hein, c'est 1% de ce que font les gros cargos. Mais au moins, eh ben, c'est sans énergie fossile et ça fonctionne. Et là, le premier bateau de Taut vient d'arriver à New York hier après 18 jours de traversée. Voilà, hein, ça, c'est le début. Donc voilà, et donc la suite dans Sailcop en tout cas, et en tout cas moi, dans mon cycle, il n'est pas fini chez Sailcop, puisqu'en fait là on va développer, au même titre qu'on a développé des catamarans pour les courtes distances, on va développer des transmeds, donc des bateaux de 30 à 60 passagers pour des moyennes distances, donc qui vont embarquer des gens pour 24 à 48 heures, pour des distances comme, comme la Corse ou comme l'Irlande ou que sais-je. Et ensuite, on va développer les voiliers transat, hein, qui sont des bateaux qui feront aller entre 70 et 120 mètres de long, qui emmèneront entre 100 et 250 passagers pour aller aux États-Unis, en Colombie, au Brésil, et pourquoi pas. Moi, mon rêve, c'est que aujourd'hui, il y a une compétition qui s'opère sur les mers, et c'est sur des bateaux qui valent 25 millions d'euros, ou j'exagère un petit peu, mais à peine, qui emmènent un Gus qui vole sur la mer. Gus, excusez-moi, j'ai plein d'amis qui sont coureurs au large, donc du coup, non, pas Gus, mais une personne qui vole quasiment sur l'eau. Le truc est ultra fragile. Quand il est arrivé de l'autre côté, il prend l'avion pour rentrer. Il y a 12 personnes qui prennent l'avion pour leur amener le bateau.
Ouais,
et c'est là que les nations jouent leurs pectoraux, quoi. Et en fait, moi, j'aimerais que un politique, pourquoi pas Macron, s'empare du truc et dise, regardez, nous, la France, on a emmené 200 passagers du Havre à New York en 14 jours, sans énergie, etc. Faites mieux le Brésil, faites mieux l'Australie, faites mieux les States. Et comme ça, qu'on crée une forme d'émulation là-dessus et qu'on revienne un petit peu à fondamental et en plus c'est très beaucoup plus agréable. Et juste la petite histoire qui est rigolote, c'est que notre bateau à Concarneau, donc Concarneau les Glénans, donc c'est un bateau comme je vous l'ai dit de 80 passagers. À côté, la compagnie avec les vedettes qui emmènent les gens à Concarneau, donc nous c'est 80, eux ils sont entre 100 et 300 passagers selon les bateaux, qui sont des bateaux évidemment à moteur. Et en fait ce qui est rigolo, c'est que ils ont le bruit, ils ont l'odeur et surtout on les dépose, c'est-à-dire qu'on va plus vite qu'eux, c'est-à-dire que nous, notre bateau, là, les 80 passagers, il y a tous les dauphins qui nous accompagnent parce qu'ils sont trop cool, les bateaux, et en plus, on va plus vite que le bateau à moteur, donc ils sont tous verts, et donc, là, pour le coup, c'est ouais, à nouveau, je vous parlais de projet consensuel, c'en est un, quoi.
Vous parlez convaincu. Nous, on est sur un petit joyau environnemental, le bassin d'Arcachon, on va pas se mentir, c'est quand même un des paradis, il n'y en a pas qu'un, mais terrestre et maritime, et qu'est-ce qu'on voit depuis une dizaine d'années, sous prétexte, là aussi, je ne sais pas, d'économie, et ou au contraire, d'amener le plus de gens possible, des bateaux roses, des machins, des cubes, des fers à cheval, c'est dégueulasse, quoi. Enfin, la vérité, c'est que c'est un endroit fait pour la voile, c'est un endroit fait pour le calme, la beauté, et tout ça, pour avoir 10 passagers de plus. Donc, multiplions, venez faire ça chez nous.
Bah ouais, avec plaisir. Après, sur le bassin d'Arcachon, on n'a pas encore étudié la chose, mais on va déjà au plus logique.
Vous allez juste vous faire tuer par l'UBA, mais c'est pas grave.
On verra. Après, c'est vrai que c'est aussi des milieux dans lesquels les nouveaux entrants ne sont pas toujours bien accueillis.
C'est ça.
Et donc, on y va petit à petit. Mais en fait, on peut aussi leur proposer. C'est-à-dire que là, la compagnie dont je parle, dont je ne cite pas le nom à Concarneau-les-Glénans, mais en fait, on va leur proposer, on leur dit, mais prenez notre bateau. Qu'il soit, vous le louez, c'est vous qui l'opérez, vous le remplissez comme vous voulez, parce qu'en fait, vous avez la force commerciale, vous emmenez 3000 personnes par jour, nous, on a besoin de 160 personnes par jour pour assurer le truc. Franchement, allez-y, on met votre nom sur la voile, et il est à vous, et on fait la même chose avec un terril à La Rochelle.
Une franchise.
Ouais,
on voit l'idée. Ok. Écoutez, Maxime, ça me paraît incroyable. Alors, tout à l'heure, vous disiez qu'on allait peut-être revenir sur un fil. Alors, je préviens tout de suite Freud. En fait, avec Maxime, vu qu'on y passe du temps et que c'est passionnant, on va faire un programme à part. C'est-à-dire qu'on va faire un petit topo général, évidemment, de Climax, mais on extraira tout ce que nous aura dit Maxime et on fera une émission toute seule sur Maxime de Rostelan. Comme ça, au moins, on est tranquille. Non, mais justement pas. Sinon, oui, si on voulait que tout le monde ait à 20 minutes et toi à 1 heure, ça irait pas. Ouais, mais, ouais. Mais là, par contre, on te fera une émission à part. Bref, donc, du coup, on a le temps. Et tu parlais tout à l'heure de retirer un fil.
Je sais plus. Ah oui, on disait sur pourquoi est-ce qu'on a perdu. Pourquoi est-ce qu'on a perdu en efficacité énergétique ?
C'est ça.
En gros, il y a 4 grandes raisons. La première, c'est que c'est évidemment les méthodes de production avec force tracteur, force phyto. Il faut savoir que 70% de l'empreinte carbone d'une ferme, c'est pas ce qu'on met dans le réservoir du tracteur pour le faire avancer, c'est ce qu'on met dans le pulvé. Le pulvérisateur, okay. C'est-à-dire que c'est les produits qu'il pulvérise qui sont des dérivés de la pétrochimie et qui sont très, très, très émissifs.
Ok.
D'accord ? Donc, ces méthodes de production plus le tracteur, ça, c'est la première raison.
Alors, émissifs, ça veut dire qu'ils se répandent ?
Non, émissifs, c'est-à-dire qu'ils émettent. D'accord. Donc, qui émettent du carbone.
Ok, pigé.
D'accord. Donc, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est évidemment le côté mondialisé de l'agriculture avec des énormes usines qui font des produits transformés. Et en fait, on a décidé qu'on allait produire le soja au Brésil, le riz en Inde, les céréales en Ukraine. Et en fait, tout ça transite par des gros bateaux. Ça n'a aucun sens. Et en fait.
Ils créent même des lignes de train, des pipelines à bouffe exprès. On a des amis, nous, au Cap Ferret, qui sont dans des grosses sociétés, tu vois. C'est le monopoly alimentaire. Ouais. C'est-à-dire, c'est la boîte en fait qui fait venir le soja du Brésil, qui l'amène, qui a créé un train jusqu'à la côte.
Donc tout ça fait des émissions de gaz à effet de serre. Mais même le fait de concentrer la production avec des camions qui arrivent, qui repartent, et donc avec des gros process industriels qui en plus n'ont pas grand chose à foutre de l'environnement local. Ça, c'est vraiment deuxième truc. Troisième chose, c'est, on en a parlé rapidement, mais nos régimes alimentaires, qui sont beaucoup plus carnés qu'à l'époque de nos grands-parents. On consommait 55 kilos de viande dans les années 60, on en consomme 90 par an par habitant. D'accord. Aujourd'hui. 90, faut imaginer ce que ça fait. Donc du coup, ça fait presque 2 kilos par semaine, en moyenne. Et donc du coup, ça c'est la troisième chose. Et je vous donne un truc en bonus, c'est que, vu que le prix de l'alimentation a largement baissé, on est passé de... 30% du budget des ménages à l'époque dans les années 60 oui. était consacré à l'alimentation. Aujourd'hui c'est 11-12, donc on a divisé par 3 la valeur relative de la bouffe. Donc les gens ne donnent plus trop de valeur à la bouffe et donc du coup on gâche. Il y a 30% de ce qui est produit qui n'est jamais consommé. Ça vient gréver évidemment le bilan énergétique global. C'est une quatrième raison. Donc voilà un peu ces raisons qui font que on est beaucoup moins efficace que nos grands-parents. Et c'est un peu une insulte à l'intelligence humaine que d'être 25 fois moins efficace que ses grands-parents.
C'est pas faux.
Surtout dans une société qui pense s'être développée. Ouais.
Alors, pas faux. Alors après, moi, j'ai toujours la même question, je ne suis pas très original en fin d'entretien. Je ne voudrais pas que l'interlocuteur parte un petit peu frustré, se dise « Ah merde, on n'a pas parlé de ça, il ne m'a pas dit ça ». Donc, est-ce que justement, vous avez un sujet ou une intervention que nous n'aurions pas évoquée, qui vous viendrait à l'esprit maintenant et dont vous auriez envie de parler maintenant ? Et une fois que vous aurez pensé ou dit ça, vous nous donnerez aussi des liens, des lieux où on vous lit et où on vous voit.
À un moment, il faut, c'est comme l'an 1, quoi. Le biomimétisme, le fait de regarder un petit peu comment fonctionne la nature et pendant depuis 3,8 km, ouais. Ça se passe très bien. Pourquoi est-ce que, vous savez, pour faire le verre et notamment le verre de nos smartphones, on va chercher du sable quartzeux, donc c'est une matière pure.
Absolument.
On le met à 2000 degrés sous 3 barres de pression.
C'est lisse.
Et donc du coup, c'est très très énergivore. Et en fait, on pense que c'est la seule manière de le faire. Or, dans l'océan tropical, il y a une éponge de mer qui, avec de la silice dissoute dans la mer, avec à température ambiante et à pression atmosphérique, fabrique du verre. Alors c'est plus lent, mais fabrique du verre qui est plus résistant que le nôtre. Pourquoi on ne s'arrête pas 2 secondes, on ne regarde pas comment fonctionne cette éponge de mer et on se dirait tiens, on pourrait essayer de reproduire ça, on pourrait réfléchir à ça. Donc le message que je donne, c'est le biomimétisme, le fait de s'inspirer de la nature est à mon avis, la nature est une encyclopédie de solutions. D'ailleurs,
c'est vrai.
Gustave Eiffel n'aurait jamais réussi à faire sa tour si jamais il n'avait pas observé le fémur, la structure du fémur. Oui. On n'aurait jamais réussi à faire voler un hélicoptère si on n'avait pas pu filmer une libellule et comprendre comment la libellule fonctionne. Donc voilà, ça a déjà fonctionné, continuons à le faire. Et après, si jamais on s'inspire et qu'on s'émerveille de la nature, il y a toutes les chances qu'on arrive à la préserver.
On est bien d'accord. Moi, il y a très longtemps, travaillé dans un laboratoire qui avait inventé un médicament à partir du venin d'une vipère. Vous voyez,
bah oui, donc, bien
comme
sûr.
Quoi. Alors, On vous retrouve où, Maxime de Rostolan?
Bon, je sais pas, sur les réseaux, dans les festivals. Enfin, je plie les festivals. Que si vous voulez me parler, le mieux, c'est vraiment attendre 4-5 heures du match.
Vous pliez, d'accord, on a compris.
Mais non, blague à part, sur les réseaux, sur LinkedIn, sur tout ça. Facebook, cool. Les algorithmes Facebook sont pétés apparemment depuis 2-3 ans, ça marche plus trop. J'ai quitté Twitter depuis que c'est l'autre qui a pris la main dessus. Donc voilà, et sinon...
Des livres, des films.
J'ai écrit plusieurs bouquins en avant, parce qu'en marche, ça peut être marche arrière. Donc du coup, en avant, chez Michel Lafond, j'ai publié... On a 20 ans pour changer le monde, mais c'était il y a 6 ans, donc il ne reste plus que 14. Il faut que je fasse une réédition. Mmh. Et c'était chez Larousse, et puis il y a un livre, un film où vous pouvez voir là, toute cette histoire de lobbying agricole qui s'appelle aussi On a 20 ans pour changer le monde. Il est sur les plateformes France TV, etc. Donc voilà, et puis sinon, lisez plein d'autres choses, il y a plein d'autres choses intéressantes. Quoi.
C'est cool. En tout cas, on était avec Maxime de Rostolan, vous l'avez compris, il y a vraiment des personnalités passionnantes ici dans ce festival Climax 2024. On vous remercie beaucoup d'avoir soustrait un petit peu justement du temps parce que vous êtes occupé, on vous sollicite un petit peu de partout. Mais nous, en ce qui nous concerne, on adore faire ce métier parce que découvrir des gens comme vous, c'est tous les jours que ça peut nous arriver. Et c'est comme ça qu'on apprend, qu'on grandit aussi. Donc merci beaucoup.
Merci à vous.
Salut Maxime.
Allez, very good.